franceinter.fr.
Bonjour à tous. En Irak, ils sont des dizaines de milliers chassés par la guerre civile et notamment l'interminable bataille pour reprendre Mossoul à l'organisation État islamique. Des dizaines de milliers de réfugiés qui ont vécu plus de 2 ans sous le joug des islamistes dont ils ont souvent été les victimes. Comme toutes les personnes déplacées de toutes les guerres civiles, il faut bien sûr les loger, les alimenter, leur prodiguer les soins dont ils ont besoin physiquement, mais aussi psychologiquement. Tous ces gens ont été témoins ou même victimes d'abominations qui resteront forcément gravées dans leur mémoire. Actes de torture, exécutions, mise en esclavage, autant de traumatismes dont ils ont parfois du mal à parler spontanément et qu'il faut donc les aider à surmonter. Aider les autorités irakiennes à prendre en charge ces réfugiés, c'est l'une des missions, un peu méconnues, des organisations humanitaires parmi lesquelles Médecins du Monde. Vanessa Descoureau a eu l'occasion de rencontrer certains de ces réfugiés et ceux qui les soignent dans le camp de Chamisko, véritable ville de 26 000 habitants réfugiés dans le nord du Kurdistan irakien ou bien encore à Kalatafaran, à moins de 20 km de Mossoul. Leurs récits sont terrifiants, leur guérison improbable. Et pourtant, Médecins du Monde s'attend, avec la fin prochaine de la bataille de Mossoul, à un nouvel afflux de réfugiés qui auront encore plus besoin d'aide psychologique. Irak, pensez les esprits des victimes de Daesh.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous sommes à Kalatafaran, c'est un village qui est à une quinzaine de kilomètres à peu près de Mossoul, dans une zone très agricole, assez vallonnée tout autour de nous et surtout très verte. Et c'est ici, dans ce cadre extrêmement paisible de Kalatafaran, c'est ici que viennent se réfugier des familles qui ont fui récemment l'enfer de Mossoul. Alors là, on arrive dans une petite maison en pierre où plusieurs familles qui ont fui Mossoul vont nous recevoir.
Salam.
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 Manal, vous avez fui Mossoul il y a un mois. Aujourd'hui, comment vous vous sentez ?
Je me sens tellement mieux maintenant. On est libérés de Daesh. On est en sécurité ici, mais d'un autre côté, j'aimerais tellement pouvoir un jour retourner dans ma ville d'origine. C'était une peur permanente sous Daesh. Ces derniers mois, ils nous affamaient, il n'y avait rien à manger. Ils nous forçaient à changer de maison, ils nous déplaçaient sans cesse, comme si on était des otages. J'ai vu une femme être fouettée dans la rue, elle ne portait pas le voile comme le souhaite Daesh. Je sortais le moins possible. Il y a eu ma belle-sœur aussi. Ils l'ont vue sur le toit de la maison. Elle avait son voile pourtant, mais ils ont trouvé ça bizarre de la voir là-haut. Ils ont voulu nous questionner. Selon eux, c'était interdit.
Vous avez des enfants ?
Oui, j'en ai 4. Ils avaient si peur. Aujourd'hui, ça va mieux, mais ils étaient terrorisés à Mossoul. Ils n'allaient même plus à l'école.
Est-ce qu'il y a encore des moments où vous avez ces souvenirs, cette emprise de Daesh dans votre tête ?
Pendant longtemps, je ne trouvais plus le sommeil. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais dès que j'entends une voix inconnue, je sursaute, je tremble. On n'a encore rien oublié. Ce sont des choses indicibles.
Est-ce que vous considérez que c'est une blessure ou vous vous dites ça va passer ou ça va en tout cas s'estomper ?
Oui, c'est une blessure qu'on aura du mal à guérir. Je suis soulagée que tout ça soit fini. Mais ils nous ont fait tant de mal. On est passé à travers tant d'épreuves, tout était si difficile. Ils nous mettaient une telle pression quotidienne sur tous les aspects de la vie, puisqu'ils contrôlaient tout. On ne leur avait pas prêté allégeance, alors ils ne nous lâchaient pas. Ils ne nous distribuaient pas les produits de première nécessité. Ils ennuyaient nos hommes le vendredi à la prière. Ils les prenaient à partie. Ils les forçaient à se faire pousser la barbe, à porter leur tenue, à les rejoindre, en quelque sorte.
Quand vous êtes arrivé ici, dans ce village paisible, quelle est la première chose que vous avez vraiment, vraiment voulu faire pour signer ce retour à la liberté ?
J'étais si heureuse que j'ai voulu appeler ma famille. Pendant 2 ans, le téléphone portable était interdit. Je voulais les appeler et les voir. Donc téléphoner a été mon premier geste de liberté. Ensuite, j'ai envoyé mes enfants à l'école. Enfin!
Alors là, c'est les enfants réfugiés qui dévalent une piste et une pente avec des bouts de plastique, des bidons d'huile qu'ils ont ouverts pour faire office de luge, en quelque sorte.
Nous sommes avec Mohamed, 24 ans, qui a fui Mossoul il y a un mois. Comment s'est passée la fuite ?
On savait que l'armée était à Tal-Kaif, au point de rassemblement qu'on appelle les chutes d'eau. On est parti à 20h, une fois la nuit tombée, on a marché 4 heures avant de trouver les forces armées.
Vous étiez combien de personnes dans votre fuite ?
Il y avait 25 personnes au total, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées. On s'était mis d'accord 2 jours avant pour tenter de fuir cette nuit-là.
Qu'est-ce qui se passe quand les gens se font attraper quand ils essayent de fuir Mossoul et que malheureusement ils n'y arrivent pas ? Qu'est-ce qui se passe pour eux ?
Quand ça ne marche pas, tous les hommes sont tués. Les femmes et les enfants sont capturés et appartiennent ensuite à Daesh. C'est ce qui arrivait à une famille de Mossoul la nuit qui a précédé notre fuite. Aujourd'hui encore, on n'a aucune nouvelle de ces gens.
Maintenant, vous profitez, vous jouissez de votre nouvelle liberté, la liberté retrouvée. Mais est-ce qu'il y a encore des moments où votre esprit est occupé par Daesh ?
Rien n'est beau sous Daesh. Tout n'est que pression, intimidation pour rester invisible. S'il voit quelqu'un dehors au moment de la prière, il est battu. Quelqu'un qui ne porte pas de barbe, il est battu. Quelqu'un qui n'est pas habillé à leur goût, il est battu.
Et qu'est-ce qui est beau ici à l'inverse ? Qu'est-ce que vous trouvez particulièrement beau ici ?
Tout est beau ici. Tout est beau. On peut faire ce qu'on veut, on peut sortir tard le soir, on peut fumer, faire ce qu'on veut. Là-bas, après 20h, on devait rentrer à la maison. Si on se faisait attraper dans la rue, on était questionné, accusé de donner des informations à la coalition internationale pour donner des coordonnées pour les frappes aériennes. Ici, rien de tout cela. C'est agréable.
Est-ce que vous vous dites, ok, je bénéficie de ma liberté, je profite de ma liberté, mais en même temps, je sais très bien que je suis un peu brisé au fond de moi et qu'il va falloir que j'y travaille.
Non, ici tout semble aller bien. Mais il est évident que le traumatisme, le choc enduré sous Daesh est impossible à oublier ou même à accepter. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier, même dans 2, 3 ou 4 ans. Je n'éprouve pas le besoin d'aller voir un médecin, c'est quelque chose qu'on garde pour soi. Avoir échappé à Daesh, voilà ce qui va me soigner et m'aider à me sentir de mieux en mieux.
Ces témoignages illustrent que la santé mentale est encore très taboue dans la région, puisqu'on vient de l'entendre, il y a beaucoup de personnes déplacées de Mossoul qui refusent l'assistance et l'aide d'un médecin qui pourrait pourtant écouter la violence des témoignages qu'ils ont en eux, alors qu'à 500 mètres seulement de la maison où on était, il y a une clinique mobile qui dispense précisément ce type de soins. Nous sommes avec Nouri, qui est celui qui mène ces entretiens individuels pour les personnes déplacées qui en éprouvent le besoin. Déjà, petite précision, on est dans une voiture, parce que voilà, c'est encore une structure émergente, toute nouvelle, donc on est dans des conditions un peu précaires. On est dans une voiture, et c'est dans cette voiture que les personnes déplacées qui le souhaitent viennent effectivement être écoutées par rapport au traumatisme qu'ils ont vécu. Qui vient ici ?
Ça dépend des régions, mais ici à Kalatafaran, dans la plupart des cas, ce sont des enfants qui souffrent de dépression et de syndrome post-traumatique. Il y a des déplacés dans ce village, des familles qui ont fui Daesh. Ils ont vécu des histoires cruelles du temps où ils vivaient sous la folie des terroristes. Des histoires comme celles de mères qui ont vu leur enfant tué devant leurs yeux ou enlevé par Daesh. J'ai aussi entendu l'histoire d'une femme qui pleurait son cousin mort. Et les gens racontent ces histoires tragiques devant leurs propres enfants. Et les plus jeunes, ce sont comme des pages blanches, mais ils sont déjà plongés dans ces horreurs. Ça les imprègne, ça les affecte et ça reste gravé dans leurs esprits.
Vous avez le même passeport que ces gens que vous écoutez, qui viennent ici, que vous aidez. En tant qu'Irakien, donc, de ce fait, comment vous sentez face à ces témoignages ?
Bien sûr, c'est très difficile d'entendre ces témoignages, c'est souvent déchirant. C'est très important d'être dans l'empathie, de comprendre ces histoires et la douleur qu'elles génèrent. Mais moi, en tant que professionnel, je dois me contrôler. Je dois tempérer mes réactions. Par exemple, si je me mets à pleurer, les victimes n'auront plus confiance en moi, alors je n'ai pas le droit. Je dois leur apporter de l'aide, ils ont besoin d'être écoutés. De mon côté, je dois m'imposer une ligne à ne pas dépasser le soir en rentrant à la maison. C'est seulement ainsi que je peux surmonter ces difficultés.
C'est un travail formidable, essentiel que vous effectuez, mais il y a un tel tabou encore dans la région concernant la santé mentale qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Bien sûr, c'est un tabou. De manière générale, dans la société irakienne, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Ce n'est pas considéré comme normal. Surtout au tout début des programmes consacrés à la santé mentale, c'était très mal vu. Mais tout dépend du niveau d'éducation, du niveau d'ouverture d'esprit des gens. En fonction des cas, on peut leur faire comprendre des choses. Que parfois, c'est un simple trouble, qui peut être de l'anxiété ou une incapacité à trouver le sommeil. À nous de leur signifier que ce sont des choses qui peuvent arriver et qui nécessitent un peu d'aide, un peu d'écoute. Mais rien de plus. Mais ce n'est pas la norme en Irak. La norme, c'est de dire que si vous avez besoin d'un soutien psychosocial, c'est que vous êtes fou, rien d'autre. C'est un stéréotype qui a la peau dure ici.
Ça, c'est Nouri qui range ses dossiers après une journée de consultation. Nous sommes à Dohuk, c'est l'une des grandes villes du nord de l'Irak et plus précisément dans les locaux du département de la santé, c'est-à-dire l'annexe locale du ministère de la santé irakien. Et on va rencontrer les autorités pour voir comment elles ont estimé les besoins en termes de santé mentale.
My name is Dr. Dara Shingali.
Je suis le docteur Dara Shingali, je suis le directeur général de ce département et le coordinateur des programmes de santé mentale. La santé mentale a pris une place de plus en plus importante l'année passée dans le gouvernorat de Dohuk, mais aussi dans toute la région du Kurdistan. Si vous comparez avec les autres services, bien sûr, c'est nouveau. Nous avons une population de 2 300 000 personnes dans le gouvernorat, ce qui inclut des déplacés et des réfugiés. Mais si vous regardez la capacité nécessaire pour apporter de l'aide à ces gens, c'est très peu. Nous avons seulement 5 psychiatres. Et nous avons des psychologues qui sont encore en cours de formation. Ils font de leur mieux pour faire ce travail de soins psychologiques. Mais, encore une fois, ça n'est pas ce à quoi ils sont formés. Donc oui, nous avons peu de moyens, la santé mentale est un problème, mais nous travaillons très dur pour améliorer ces services.
Est-ce qu'il existe un programme très spécifique et dédié aux enfants ?
Oui, nous avons un programme spécifique pour les enfants, mais la charge sur ce centre-là, et pas seulement sur celui-là, mais sur tous les centres qui traitent de la santé mentale, la charge est énorme. Et ça l'est de plus en plus depuis le début de l'opération de libération de Mossoul. En ce moment, nous discutons également pour ouvrir un nouveau centre pour les orphelins, pour les enfants qui sont aux mains de l'État islamique, pour les conduire dans le droit chemin. Car Daesh a des écoles dans lesquelles les enfants sont entraînés, ils sont manipulés, ils sont forcés de changer de religion et de prénom. Et nous sommes inquiets pour l'avenir. Parce que si on ne conduit pas ces enfants sur le bon chemin, dans 10 ans, que va-t-il leur arriver ? Nous devons évaluer si ce que nous proposons est efficace pour empêcher ces enfants de devenir, au pire, des partisans potentiels de Daesh. Nous voulons les protéger des problèmes mentaux et aussi des problèmes sociaux.
Ce que vous voulez dire, c'est que ces enfants ne sont pas perdus encore, vous pouvez les aider, mais ils ne sont pas loin d'être perdus quand même.
Oui, nous voulons guider ces enfants. Je n'aime pas utiliser le terme de traitement parce que ce sont des enfants. Nous devons utiliser différentes approches pour leur expliquer ce qui s'est passé chez eux, leur montrer que ce qu'ils ont appris dans ces écoles de l'État islamique, ce n'est pas la réalité de notre monde. Et cela va nécessiter un gros effort. Nous savons qu'il existe un nombre important d'enfants concernés.
Si vous ne faites rien, ça peut être une bombe à retardement, ce problème.
If you do not nothing, then you know that you can. Si on ne fait rien, on sait que nous pouvons avoir des problèmes à l'avenir. Et c'est précisément sur cela que nous travaillons. C'est très important. Si nous identifions ces signaux dans nos centres, dans notre société, en tant qu'institution gouvernementale de santé, c'est notre devoir de réagir.
Je m'appelle Françoise Sivignon, je suis médecin et présidente de Médecins du Monde France.
L'Irak est un pays qui a connu 30 ans de guerre quasiment sans discontinuer. On peut remonter jusqu'aux années 80 et la guerre Iran-Irak. C'est donc un pays où, de fait, on se dit que la santé mentale devrait être une priorité. Et pourtant, la réalité, elle est comment ?
La réalité est effectivement que la santé mentale n'est pas une priorité en termes de politique de santé publique. C'est pas le seul pays. La santé mentale, on a souvent considéré que c'était quelque chose d'à part dans la santé. Or, ça fait bien partie d'une santé globale. On est bien dans son corps et dans sa tête si la santé mentale est là et est bien prise en charge. Et donc, en Irak en particulier, dans ce pays fragmenté, divisé, compliqué à appréhender aussi, les communautés sont diverses et l'histoire récente depuis 30 ans fait que ça ajoute à cette complexité.
Précisément, aujourd'hui, que vous disent les autorités ?
Alors, je pense que les autorités ont bien réalisé qu'en termes de santé, c'était une priorité. On voit des personnes, et en particulier les plus exposées, les femmes et les enfants et les adolescents, qui sont dévastées. Et donc, la réponse, elle est urgente. Donc, je pense au point de vue des autorités, de réaliser qu'il faut faire quelque chose sur ce volet de santé mentale, c'est bien là.
Mais concrètement, est-ce que finalement, elles ne se déchargent pas, les autorités, sur vous, ONG occidentales ?
Alors, elles nous disent qu'effectivement, en termes de ressources humaines dédiées, on est loin de couvrir les besoins en santé mentale. Alors, oui, on les accompagne, on va dire, mais comme sur tous nos terrains, on ne se substitue pas ou le moins possible à l'action publique. Donc ici en Irak comme partout, on va accompagner ce processus, leur dire écoutez, les besoins sont là, on est bien sur une co-construction quelque part avec les autorités sanitaires, sur une réponse en santé publique. Par rapport aux réalités qu'atteste le terrain, on a un vrai levier à activer. Et c'est vraiment, on est dans cette démarche-là de dire ok, on soigne, ok, on va témoigner de l'inadmissible, de l'insoutenable, mais maintenant à vous d'agir, c'est-à-dire à vous de mettre les ressources humaines nécessaires et finalement les financements nécessaires pour qu'il y ait une vraie réponse dans ce pays meurtri.
Parce qu'on a tendance à penser santé mentale égale les victimes directes de Daesh, des gens qui ont vu ou même, bien évidemment, subi des violences et des abominations de la part de ces criminels de Daesh. Mais ce n'est pas seulement ça, apporter une assistance en termes de santé mentale.
Ah oui, non, apporter une assistance en termes de santé mentale, c'est certes s'occuper quand même en priorité de ceux qui sont les plus meurtris, très abîmés, et ce pour un long terme. Donc c'est vraiment le suivi et l'accompagnement de ces personnes, ce ne se fait pas en deux jours ou en trois jours, c'est vraiment un suivi long. Mais au-delà des personnes directement concernées, il y a tout l'entourage familial, communautaire. On n'est pas sur de l'instantané ou une réponse avec trois médicaments et vous pouvez rentrer chez vous. On est sur du long terme. Et cette complexité, elle vient du fait que pour certains, s'ils considèrent de s'installer durablement dans la zone où on les verra, on peut les accompagner. Quand les gens ont la perspective de bouger, donc quand ils sont dans la mobilité, ce qui est le cas de la plupart des réfugiés et des migrants qu'on suit, c'est plus compliqué. La réponse est beaucoup plus compliquée.
Nous sommes sur le camp de Tchamescou. C'est le plus grand camp de déplacés du nord de l'Irak, ici dans le Kurdistan irakien. C'est 26 000 personnes qui sont originaires de régions qui ne sont toujours pas libérées de l'emprise de l'État islamique. Et ici, c'est une vraie ville qui est en train de se mettre en place. Il y a des commerçants un peu partout, des marchands de vêtements même, des marchands de fruits et légumes qui s'installent à même le sol avec leur étal. Il y a des boutiques un peu partout, il y a même le café à Chicha, il y a des écoles. Donc c'est une vraie ville qui est en train de prendre forme ici dans un décor montagneux tout autour de nous. Et il y a même de la neige encore au sommet des montagnes à cette époque de l'année. Sur ce camp, il y a également un centre de santé. Il est géré par Médecins du Monde. Et il s'intéresse beaucoup à la santé mentale, puisqu'il y a beaucoup de victimes, évidemment, de Daesh qui sont réfugiées sur ce camp. Et là, nous allons assister à une séance collective d'information autour, notamment, des premiers symptômes qui peuvent émerger quand il y a, évidemment, des troubles psychologiques. Et c'est une séquence qui est dédiée et consacrée aux femmes. Il y a déjà à peu près une dizaine de femmes qui sont assises très sagement dans cette pièce. Et c'est le docteur Eiran qui va animer la session. Nous sommes avec Rian, 33 ans, qui a passé presque une année aux mains des combattants de Daesh. Vous étiez avec vos enfants pendant tout ce cauchemar.
Mes cinq enfants étaient avec moi au début, puis ils ont pris l'un de mes garçons, l'une de mes filles et mon mari. Depuis, je n'ai pas de nouvelles. J'ai appris que ma fille était en Syrie, mais pour les autres, je ne sais pas s'ils sont encore en vie.
Donc votre fille qui a été enlevée à 9 ans, le garçon à 11 ans, qu'est-ce que Daesh fait de ses enfants ?
Je ne sais même pas ce que Daesh fait d'enfants aussi jeunes, je n'en sais rien. Tout était cruel. Après la séparation d'avec deux de mes enfants, il y avait des jours entiers où ils ne nous donnaient même pas à boire. Rien, pas une goutte d'eau. Parfois rien à manger. Pourtant j'allaitais mon plus jeune fils, mais il me laissait comme ça à m'affamer pour ne pas pouvoir le nourrir correctement. J'ai tout vu de mes propres yeux. Des gens tués devant moi, exécutés, des femmes violées, des gens battus presque jusqu'à la mort. Et j'ai vu un enfant être décapité, découpé en morceaux. Ils l'ont cuisiné et ils m'ont forcé à manger ça.
Maintenant que vous êtes libre, après vous être enfui de la ville de Deir ez-Zor, donc en Syrie, et après un long périple pour venir ici dans le nord de l'Irak, vous avez un suivi psychologique. C'était une évidence pour vous ou il a fallu réfléchir à tout ça ?
Ça me fait du bien en tout cas, parce que je suis bien suivie, on m'a renvoyée vers un médecin encore plus spécialisé. Je prends des médicaments et sans eux, je retourne dans ma dépression et m'enfonce encore un peu plus. Sans ces médicaments, je deviens folle. Je fais plein de cauchemars, je ne peux plus trouver le sommeil sans médicaments. Je suis en permanence terrifiée. J'ai peur qu'ils reviennent. Quand je m'endors, ils sont dans ma tête. Je me réveille, ils sont encore dans ma tête. Ils accaparent mon esprit.
Et vos enfants qui sont là, comment ils vont ? Ils sont suivis aussi ?
Il semble aller plutôt bien, sauf mon fils aîné. Il a été battu par les fous de Daesh. Aujourd'hui, il marche comme un fantôme, mais aucun de mes enfants ne voit de psychologue.
Ayhan, c'est avec vous dans votre bureau qu'on a entendu l'histoire de Rian. Mais vous aussi, vous êtes une déplacée. D'ailleurs, vous vivez sur ce camp de Tchamescou. Quelle est votre histoire ?
Avant que Daesh n'arrive sur le mont Sinjar, d'où je suis originaire, une bonne partie de ma famille a réussi à fuir, dont moi. Avec mes sœurs, on a pu partir à temps, mais pas tout le monde. Deux de mes cousines ont été capturées, ma grand-mère aussi. Dans notre fuite, on s'est caché dans plusieurs endroits, notamment une salle de sport abandonnée. On est resté 3-4 mois dedans avec plusieurs familles. Ensuite, ma famille est arrivée ici, au camp de Chamescou. J'ai trouvé un travail pour écouter, assister les victimes, et ça m'a beaucoup aidée. J'ai parfaitement conscience de la difficulté de ce travail, surtout avec ma propre histoire, mais je sais que comme ça, je peux aider les victimes. Je souhaite que ça leur soit bénéfique, donc je reste ici avec eux.
Est-ce que vous êtes retournée à l'endroit d'où vous venez, maintenant qu'il est libéré ?
Depuis que mon village a été libéré, j'y suis allée une fois. J'avais quelque chose à y faire. Mais je n'ai pas pu rentrer dans ma maison. Ça m'était impossible car ma grand-mère avait l'habitude d'y être. Je ne peux pas imaginer cet endroit sans elle. Et aussi parce que ma cousine, dont on a trouvé le corps découpé en plusieurs morceaux, vivait dans une maison de la même rue. Donc c'est trop difficile pour moi. Toutes ces rues étaient désertes, comme mortes. Je ne voulais pas rentrer dans les maisons. Je n'avais pas la force.
Est-ce que vous racontez cette histoire, votre histoire, aux femmes qui viennent dans ce bureau justement, pour se libérer de toute cette pression et cette tension qu'elles ont en elles.
Je ne leur raconte rien de tout cela. J'en parle à des amis si ça ne va pas, mais jamais aux femmes qui viennent dans mon bureau. Parce que les femmes qui viennent me voir, leur souffrance est bien pire que la mienne. Leurs histoires sont bien plus dures. Moi, je suis là pour atténuer leur douleur, pas l'accroître. Alors je ne dis rien.
Donc comment vous faites à entendre toutes ces histoires pendant toute la journée et là, devant nous, être aussi légitimement ému. Comment vous arrivez à conjuguer ces deux aspects ?
Encore une fois, les femmes qui viennent ici ont tellement plus souffert que moi, que si je ne suis pas assez forte devant elles, si je vacille, leur cas va s'aggraver. Donc pour leur bien, je me dois d'être à la hauteur et être forte.
Je suis Amélie Courcault, je suis la coordinatrice générale de Médecins du Monde en Irak.
La région du Kurdistan et plus précisément le gouvernorat d'Ouk compte 5 psychiatres, 2 psychothérapeutes certifiés. Comment vous pouvez recruter dans ces conditions-là ?
C'est un vrai défi, le recrutement particulièrement du personnel pour la santé mentale. Donc avant que le personnel soit vraiment en fonction dans les activités quotidiennes du camp, on a tout un processus de formation.
C'est pas le cœur du métier, de votre métier, la formation pourtant ?
Non, pourtant non, mais effectivement quand on veut avoir des soins de qualité auprès des patients, on est obligé de passer par cette phase-là. Mais c'est aussi plutôt gratifiant pour l'équipe, justement de pouvoir monter en compétences du personnel de santé locale.
Car l'autre spécificité, c'est que parmi les personnels que vous formez, il y a certainement aussi des gens qui ont eux aussi une histoire très lourde. Ils peuvent se reconnaître parfois dans des témoignages qu'ils entendent. Donc ça doit être aussi très compliqué, ça, pour vous, en termes de formation et d'approche.
C'est même particulier aussi ici où on est aujourd'hui au camp de Chamescou parce que la majorité de notre équipe, ce sont des médecins et des infirmiers mais qui sont déplacés et qui vivent dans ce camp. Et ça a d'ailleurs été quelque chose d'important pour nous dans le processus de recrutement, de pouvoir travailler avec des personnes qui connaissent bien la problématique et qui sont aussi originaires de la même communauté. Pour une question de langue aussi, c'est plus facile. Mais la difficulté, c'est que nos infirmiers en santé mentale, nos psychologues en santé mentale, ils sont confrontés tous les jours à une écoute que eux-mêmes vivent. Mettre de la distance dans tout ça et en considérant aussi leur changement complet de vie et d'installation et de déplacement, c'est un vrai challenge. Donc nous faisons aussi appel à une psychologue qui vient à peu près tous les 3 mois et qui vient uniquement pour échanger avec notre personnel et l'aider à faire face à toute cette écoute qui est parfois très très lourde au quotidien.
Ça a été un besoin, une demande du personnel ou vous, c'est plutôt vous qui avez mis ça en place ?
Avant de prendre soin des autres, on souhaite aussi prendre soin de notre équipe. Je pense que c'est quelque chose d'assez important, le bien-être de notre équipe. Donc ça a été une vraie volonté de notre part et on fait ça dans plusieurs pays, notamment du Moyen-Orient. Et ici, ça a été très particulier parce qu'on a été très vite confrontés à ce besoin-là parce qu'on avait des personnels qui travaillaient 8-10 heures par jour dans les premiers temps où on a démarré les activités dans ce camp de Chamescou. Notre personnel personnel travaillait plusieurs heures par jour, et plusieurs heures par jour étaient confrontés à la détresse sociale et cette détresse-là que eux-mêmes avaient vécue.
Conditions météo pas très favorables aujourd'hui sur le camp de Tchamescou. Il pleut, le vent est vraiment très froid. Et c'est sous l'une des tentes de ce camp que nous allons rencontrer Haïfa. Elle a 22 ans. Elle a passé 2 ans et demi en détention avec les hommes de Daesh, les combattants de Daesh, qui l'ont vendue, revendue maintes fois comme esclave sexuelle. Et elle a passé ainsi 2 ans et demi auprès de plusieurs, comme elle les appelle, propriétaires.
Au bout de plus de 2 ans de captivité, j'ai supplié l'homme qui m'avait racheté de me vendre à nouveau pour permettre à ma famille de me trouver et payer pour me libérer. Il a montré ma photo sur son mobile un peu partout dans Raqqa. Des passeurs m'ont repéré. Ils m'ont conduite à la frontière turque et mon cousin a pu les payer pour me redonner la liberté.
Vous avez eu combien de propriétaires durant cette très longue détention ?
Je ne sais plus. Peut-être 8, 9, 10. Je suis trop fatiguée pour me souvenir. C'était tous des Libyens. Les journées, je me levais, je pleurais, je me recouchais, je pleurais. J'étais enfermée à clé dans une pièce. On n'avait pas le droit de bouger, de sortir sous aucun prétexte. J'ai à peine vu le soleil pendant plus de 2 ans. J'étais enfermée dans cette prison, je ne sortais jamais, je n'avais le droit à rien, je n'étais rien.
Vous étiez seule dans cette pièce où il y avait d'autres femmes avec vous ?
La première année, j'étais absolument seule, puis j'ai été vendue. Il y avait une autre femme, je l'ai vue une dizaine de jours, puis elle a été emmenée ailleurs. J'ai changé souvent d'endroit, mais je ne savais pas où j'étais, on se déplaçait toujours de nuit. Je garde encore tellement de choses au fond de moi, je ne pourrais jamais tout dire.
Pendant 2 ans et demi, vous avez été vendue, puis revendue à d'autres hommes pour être leur esclave sexuelle pendant toutes ces années. Comment vous envisagez l'avenir ?
Je suis trop fatiguée pour imaginer l'avenir. Tout est fatigué en moi, mon corps, mon esprit. Je n'attends plus rien de la vie, sauf retrouver mes 4 frères et ma mère, encore otages de Daesh. Ils sont tout ce que j'ai dans la vie, je veux seulement les retrouver.
Est-ce qu'un jour, vous envisagez, probablement dans pas mal de temps, de retourner à l'endroit où vous avez été capturé, enlevé par Daesh?
Jamais. Je n'y retournerai jamais. C'est là que j'ai commencé à vivre en enfer.
Nous sommes à Borek, c'est une ville dans la région du Sinjar, la province habitée principalement par les Yézidis, une confession persécutée par les criminels de Daesh. Et avant, ici à Borek, il y avait 25 000 habitants, ils sont seulement 6 000 à être revenus depuis la libération de leur région. Merci.
Nous sommes dans le salon de Bouchra, qui a 23 ans, qui est revenu il y a seulement 10 jours ici dans sa maison, dans la maison familiale. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Bouchra, le premier jour quand vous êtes revenu ici après 2 ans et demi d'absence ?
J'étais très heureuse, évidemment. Je retournais enfin à la maison. J'ai aussi beaucoup pleuré parce que je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Mais je suis là, finalement, dans la maison où j'ai grandi. Très vite, tout le reste de la famille va nous rejoindre peu à peu. Mais nous ne pouvons pas ne pas penser à toutes les filles de la région enlevées par Daesh et qui sont encore en captivité.
Est-ce que vous reveniez régulièrement depuis que la région a été libérée pour voir comment allait la maison, qu'est-ce qui se passait dans le quartier ?
Moi, personnellement, je ne suis jamais revenue ici. Mes parents sont venus régulièrement vérifier si tout allait bien. Ils nous tenaient au courant des changements dans la maison, dans le village. Mais moi, je ne pouvais pas venir. Je ne me sentais pas en sécurité pour le faire. La vie qui commence pour nous est forcément différente de celle d'avant. On ne peut pas vivre comme avant. C'est valable pour ma famille et pour tout le monde dans la région. Tout a changé, pour toujours.
Ce sera même plus le même village, Borek.
C'est certain, ce n'est plus le Borek qu'on a connu. Ce ne seront plus les mêmes gens. Beaucoup sont partis et ne comptent pas revenir. D'autres ont émigré en Europe et ceux-là, on ne les reverra jamais, c'est certain. Donc c'est évident qu'un nouveau village est en train de se dessiner. Vous n'imaginez pas à quel point l'atmosphère est triste et pesante dans le village. On n'a aucune raison de se réjouir tant que des filles seront encore otages de l'État islamique. Dans le village, on passe devant les maisons des voisins. Tout semble fermé, comme si le temps s'était arrêté. On ne sait pas ce qui est arrivé à ces gens. Sont-ils vivants? Sont-ils morts? Sont-ils otages? Vivent-ils dans des camps? On ne sait pas ce qui est arrivé à la plupart de nos voisins. Et on voit toutes ces maisons vides, fermées à clé. C'est si triste.
Je m'appelle Nouri Khalaf, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Simone. Simone, c'est un canton qui appartient à la province du Sinjar et qui a été contrôlé par Daesh en août 2014. Au début, il m'était très difficile de revenir dans la région et de ne pas y voir tous mes amis, tous les gens avec lesquels j'ai passé tant de bons moments. Vraiment, au début, c'était très difficile. Mais maintenant, ça va. J'ai pris l'habitude de revenir souvent pour mon travail, donc c'est bien comme ça. Mais il faudra du temps pour voir les familles revenir et retrouver leur vie d'avant. La vie qu'ils avaient avant que l'État islamique n'arrive dans la région.
Vous qui connaissez particulièrement bien la région, est-ce que vous savez pourquoi il y a autant de réticence dans le retour de ces gens ?
Oui, je connais la plupart des gens de la région et plusieurs raisons font qu'ils ne sont pas encore rentrés ici. La première d'entre elles, c'est que la région n'est pas complètement sécurisée. Il y a eu des incidents récemment, des familles tuées dans leur maison, d'autres tuées alors qu'elles étaient en déplacement. Mais l'une des autres raisons, c'est qu'il n'y a pas de services de base. Certains sont en état de marche, mais il n'y a pas tous les services dont les gens auraient besoin. Vous avez le centre de soins qui, lui, fonctionne, l'école pour les petits aussi, mais le lycée reste fermé. Et bon nombre de familles veulent que leurs enfants continuent leurs études au lycée. Tout ce qui est lié à l'hygiène ou les services municipaux, ça ne marche pas non plus. L'alimentation en eau est cassée et l'eau n'est pas potable. Il y a une autre raison qui explique que les gens ne rentrent pas encore, plus en rapport avec la situation politique. Il y a beaucoup trop de groupes armés dans la région. Chacun d'entre eux veut tirer bénéfice de la situation. Ils ne sont pas préoccupés par le sort des populations. Et c'est une raison importante qui explique que les gens ne soient pas encore revenus. Et puis certains sont encore effrayés parce que le sud du Sinjar est encore sous contrôle de Daesh. Et ils craignent que les terroristes attaquent à nouveau et reviennent et enlèvent des proches pour en faire des esclaves.
Leaves. Voilà, ça c'est un bruit qu'on entend assez régulièrement dans la région, c'est-à-dire des avions de la coalition qui survolent. Qu'est-ce que vous faites ?
Je fais une petite installation électrique.
L'électricité, c'est votre truc, incontestablement. Et c'est un problème colossal hein, dans la région, puisqu'il n'y a pas d'électricité, ça fonctionne sous générateur. Vous mettez vos compétences à disposition des autres ?
J'ai d'abord fabriqué un système pour connecter l'allumage des lumières dans les maisons d'un quartier. C'était un système par énergie solaire. Ensuite, avec un déclencheur, je faisais allumer à distance toutes ces lumières dans les maisons, environ 10 minutes toutes les heures, à des moments variables de la nuit. Comme ça, quand Daesh approchait, ils croyaient que les maisons étaient pleines de combattants qui les attendaient. J'ai inventé ça, car en réalité, le village n'était pas bien protégé. Il y avait très peu de combattants, et on a essayé quelque temps de tromper l'État islamique ainsi. Eux, ils ont dû penser qu'on avait une garde conséquente, alors qu'en réalité, dans ces maisons, il y avait deux combattants, pas plus.
Quel regard vous portez sur ce village qui peu à peu revoit ses habitants revenir ?
Voir si peu de gens revenir, ça ne me donne pas une bonne impression. Tant que Mossoul ne sera pas complètement libéré, je ne me sentirai pas en sécurité. Il n'est pas exclu que certains combattants de cette bataille de Mossoul s'enfuient et parviennent à revenir ici. Et ça nous fait peur, bien sûr. Tant qu'il n'y aura pas un gouvernement efficace dans ce pays, il n'y aura pas de sécurité. Tant que les forces de sécurité ne contrôleront pas l'intégralité du territoire, tant qu'il n'y aura pas de services de renseignement compétents, tant qu'il n'y aura pas tout ça, la sécurité ne sera pas complètement assurée.
Retour avec vous, Amélie Courcot, coordinatrice générale de la mission Médecins du Monde ici en Irak. Cette bataille de la libération de Mossoul, qui est toujours en cours, qui prend beaucoup plus de temps que prévu, en tout cas beaucoup plus de temps que ne l'avaient annoncé les autorités irakiennes, est-ce que vous anticipez ça ?
Oui, tout à fait. On essaye d'anticiper le plus possible. Ça fait déjà à peu près un an qu'on s'y prépare. Les besoins en santé mentale dès les premiers jours d'une libération ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui sur un camp comme Tchamescou où ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans que les populations ont bougé. Donc on ne sera pas sur les mêmes urgences en santé mentale, ça on en est certain. Et après, la grosse inconnue reste le flot en fait de bénéficiaires qui va arriver. Est-ce que la majorité des bénéficiaires vont arriver en une seule fois ? Est-ce que ça va durer sur plusieurs mois ? Ça, c'est un vrai questionnement. Oui.
Parce que ce n'est pas le même rythme, j'imagine, que des soins de santé primaire, où là, effectivement, il y a un besoin immédiat, donc on va tout de suite consulter. La santé mentale, peut-être que ça prend plus de temps pour venir, pour faire le processus, pour faire la démarche, pour comprendre qu'il y a une blessure et qu'il faut la soigner. Donc, ce n'est pas tout à fait le même rythme, peut-être.
Oui, tout à fait. Et que ça soit avec nos bénéficiaires, mais même avec les services de santé nationaux, la priorité est toujours donnée au life-saving, c'est-à-dire aux premiers soins qui sauvent des vies dans l'immédiat. Donc ça va être de la traumatologie la plupart du temps. Et puis, dans un second temps, voire dans un troisième temps parfois, on commence à s'intéresser à la santé mentale. Notre approche, nous, à Médecins du Monde, en Irak, elle est d'être dans une approche intégrée. Donc pour nous, que ça soit des soins de santé primaire, mais que ça soit de la santé mentale, c'est un package, je dirais, où il n'y a pas une priorité plus que l'autre, dans le sens où la santé mentale devient une vraie priorité quand on a bougé d'une ville où on était médecin, où on était infirmier, où on avait un confort de vie plutôt relatif, et puis on arrive dans un camp, parfois plusieurs semaines après avoir quitté sa ville, avoir quitté Mossoul, avoir marché, et on arrive dans un camp où parfois la famille est séparée. On a les enfants qui arrivent souvent en premier, puis les femmes. femme.
Seuls. Les enfants arrivent seuls.
Parfois, oui, ça devient le cas de plus en plus. Donc effectivement, les mamans suivent quand même quelques temps après, mais il y a toujours une rupture, une cassure avec une autre partie de la famille, souvent les hommes. Et quand on arrive dans ces conditions-là, la vie est chamboulée, et notre vision de la vie est totalement chamboulée.
C'était Irak, penser les esprits des victimes de Daesh, un reportage de Vanessa Descoureau, mixage Alain Joubert, réalisation Anne Lioro, assistée de Marion Philippe, Stéphane Combe et Zora Bensmaïli. À la semaine prochaine.
Merci à toute l'équipe. C'était Interception, le magazine de la rédaction. Vous pouvez retrouver le reportage de Vanessa Descoureau à la page de l'émission sur le site de France Inter, franceinter.fr. Le dimanche sur France Inter, on se met à table. Aujourd'hui, François-Régis Gaudry nous invite à partager la cuisine vénitienne, à explorer le ventre de Venise avec au menu risotto et tiramisu, miam miam. Et dans un instant, nous retrouverons Eva Bester pour ses remèdes à la mélancolie avec Chris Esquer. Vous écoutez France Inter, il est 10h.